Les informations, Adia Chipoukou.
Les titres de ce journal. L'Union européenne a déjà tout prévu pour le financement du deuxième tour des présidentielles en RDC. Déclaration hier de l'envoyé spécial de l'Union européenne en RDC, Aldo Aiello, que vous suivrez dans ce journal. Des démobilisés pas du tout acceptés dans leur milieu de réinsertion. Cela se passe à Mitwaba, à plus de 466 km au nord de Lubumbashi. Les habitants leur reprochent d'être responsables des dégâts observés dans leur localité. Un réseau de lutte contre les violences sexuelles dans la sous-région des Grands Lacs vient de voir le jour. Ce réseau est constitué des femmes de la RDC, du Rwanda, du Kenya et du Burundi. Plus de détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour. L'Union européenne a déjà tout prévu pour le financement du deuxième tour des présidentielles en RDC. Déclaration hier de l'envoyé spécial de l'Union européenne dans ce pays. Aldo Aiello, qui séjourne en RDC depuis hier, a fait cette déclaration à l'issue d'une rencontre toujours hier avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, William Swing. Le diplomate européen a également précisé qu'il est venu dans ce pays pour créer les conditions de confiance entre les deux protagonistes du deuxième tour de l'élection présidentielle.
On a toute une histoire qui est complètement débile au sujet du financement du deuxième tour, comme si nous avions prévu seulement un tour des élections. On a prévu le financement de toutes les élections et le deuxième tour aurait été de toute façon essentiel parce qu'on devait faire les élections provinciales. Même si le président était élu au premier tour, on devait faire de toute façon les provinciales. Donc on devait passer à un autre tour. Et le coût du deuxième tour des présidentielles avec les élections provinciales est identique au coût des élections provinciales toutes seules. Donc ça ne change rien. Il y a eu un gap. Il y a un gap parce que les frais de ce processus électoral ont été plus importants qu'on ne l'avait prévu, parce que le processus a été plus long qu'on ne l'avait prévu. Alors maintenant, on essaie de trouver l'argent pour compléter ce gap qui existe.
Aldo Aiello, envoyé spécial de l'Union européenne, s'exprimait au micro de René Capita. Direction Katanga, des démobilisés pas du tout acceptés dans leur milieu de réinsertion. Cela se passe à Mitwaba, à plus de 466 km au nord de Lubumbashi. Les habitants leur reprochent d'être responsables des dégâts observés dans leur localité. La cohabitation entre ces ex-combattants et les villageois est conflictuelle. Le point avec Jean Gandou qui a fait le déplacement de Mitwaba.
Après la reddition du seigneur de guerre Kyungu Mutanga Gedeon, plusieurs de ces éléments restés en brousse se sont également rendus à la MONUC pour déposer les armes avant de rejoindre la CONADER. Après leur démobilisation, la plupart ont souhaité rejoindre leur milieu d'origine. Cependant, ils ne sont pas bien accueillis par les autres villageois. Pour les habitants, ces Maïmaï ont contribué à la dégradation de leurs conditions de vie pour avoir tué, brûlé et pillé. Un des démobilisés du village Kiaboué, situé à 90 km de Mitwaba et qui a osé retourner dans son village d'origine, explique ce qu'il a vécu. En quittant Mitwaba, je suis passé par la brousse avant de me rendre au village pour saluer ma famille. Une fois que les gens du village m'ont vu, ils ont commencé à dire que voilà le Maïmaï qui revient. Ils m'ont saisi et m'ont tabassé et je me suis échappé pour regagner Mitwaba. Floris Floribert Ngumbu, administrateur du territoire de Mitwaba, dit avoir entrepris des démarches pour sensibiliser les chefs coutumiers afin que, d'une part, ces démobilisés cessent de se présenter en vainqueurs, d'autre part, que ce villageois les accepte sans problème. La CONADER annonce pour sa part qu'elle a déjà amorcé les mêmes démarches. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Direction Mbujimayi avec cette plainte des familles des militaires de la 53e brigade. Une cinquantaine de ces familles disent être sans assistance depuis que leurs maris sont partis en brassage au Nord Kivu en avril dernier. Les autorités de la 5e région militaire déclarent de leur côté qu'elles ignoraient la présence de ces familles en ce lieu. Tati Katai.
Des Panyangis Deli, un ancien poulailler pour abri, des enfants qui présentent des signes de malnutrition sévère, une cinquantaine de familles des soldats de la 53e brigade vivent dans des conditions très difficiles dans le quartier d'Aipen situé au sud-est de la ville de Mbujimayi. Selon les femmes interrogées sur place, il y a 4 mois maintenant que leurs maris sont partis pour le brassage dans les villes de Goma et de Beni. Depuis, elles ne reçoivent aucune assistance de leurs époux qui perçoivent l'intégralité de leur salaire directement sur les lieux de brassage. Toujours selon elles, ni la 5e région militaire, ni les autorités politico-administratives de la ville ne se sont mobilisées pour leur venir en aide. Elles demandent à la 5e région militaire de les aider à rejoindre leur mari. Contacté, le major Kimpoussa, en charge du social pour la 5e région militaire, déclare que la présence de ces familles n'était pas encore connue de ses services. Il s'engage à débuter les démarches pour permettre à ces familles de rejoindre leurs époux dès qu'ils connaîtront leur affectation définitive. Une assistance humanitaire d'urgence pourrait également être dégagée. Kati Kataï, Mbujumai, Radio Kapi.
12h05 à Kinshasa, 13h à Bukavu, c'est dans le Sud-Kivu. Une quarantaine de femmes en provenance de 4 pays de l'Est de l'Afrique viennent de mettre sous pied un réseau de lutte contre les violences sexuelles dans la sous-région des Grands Lacs. Ce nouveau cadre de réseautage a comme mot d'ordre « Arrêtons la guerre et les viols, arrêtons les impunités, hommes et femmes en solidarité ». Ce réseau qui regroupe des femmes de la RDC, du Rwanda, du Kenya et du Burundi a vu le jour à la suite d'un atelier de réflexion qui s'est tenu à Bukavu du lundi 28 août jeudi 31 août 2006. C'est une initiative de l'organisation American Friends Service Committee. Explication de Justine Lacano, chargée des projets au sein de l'ONG American Friends Service Committee. Elle est au micro de Astrid Mujinga.
Les violences sexuelles faites aux femmes dans la région des Grands Lacs ont dépassé l'attendement humain. Mais ce qui se passe ici dénote d'un sentiment de vengeance. Et cela demande une détermination particulière. Nous nous sommes rendus compte que seul le réseautage reste notre seul passage obligé pour la réussite de nos actions. Nous voulons, à travers ces réseaux, traquer les malfaiteurs partout où ils sont. Que ce soit dans nos dénonciations personnelles, que ce soit dans les plaidoyers et que ce soit dans plusieurs formes d'actions que nous pouvons faire pour défendre nos mères, nos enfants et l'avenir de nos pays.
Quittons le Sud Kivu pour le Nord Kivu où l'UNICEF vient de lancer pour la 3e année consécutive sa campagne de scolarisation des enfants en mettant l'accent sur les filles. Selon la chargée du programme d'éducation au bureau de l'UNICEF, zone Est, et chef de bureau par intérim, Madame Ketia Morino, durant les 2 années de la campagne, l'inscription des filles en première année primaire a connu une hausse de 5% et celle des garçons une hausse de plus de 11%. Madame Ketia Morino précise que ce bilan est encourageant. Elle ajoute cependant que beaucoup reste encore à faire pour amener plus de filles à l'école. Écoutons Madame Ketia Morino au micro de Rosalie Zawadi.
Je vous donne les résultats encourageants de l'année passée, là où on a eu une augmentation de 11% sur les inscrits en première année pour ce qui concerne les garçons et le 5% pour les filles. Donc, vous voyez, on a encore de chemin à faire pour que les filles soient également représentées à l'école, mais comme je le disais, les résultats sont encourageants et l'UNICEF pas seulement continue, mais il extend aussi son assistance aux enfants de la 2e année pour ce qui concerne la rentrée 2006-2007. L'objectif, bien sûr, c'est pas seulement d'inscrire les filles à l'école, mais aussi les garçons.
À Mweka, dans le Kasaï occidental, une session de formation pour les infirmiers se tient depuis hier. Elle porte plutôt sur la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance. Une cinquantaine d'infirmiers venus des territoires d'Ilebo, de Luebo et de Mweka vont aussi renforcer leurs capacités. Selon le docteur Jean Kanoa, coordonnateur de ce programme, les participants pourront soigner les maladies dont souffre un enfant. Ils pourront aussi mener des investigations sur l'état de santé général du patient. Équateur à présent, le site de transit devra accueillir des réfugiés de la RDC se trouvant au Congo-Brazza sera bientôt prêt. Les travaux de construction de ce site avancent comme prévu, constat d'une mission des agences des Nations Unies à Buburu sur la rivière Ubangi et à Ipondo au Congo-Brazza. Signalons que près de 38 000 réfugiés congolais vivent à Ipondo au Congo-Brazza, mais seulement 24% de ce nombre sont favorables au retour. Je vous propose d'écouter Kodzo Segla, responsable de la section des affaires civiles de la MONUC Bandaka. Il est au micro de Régine Bokoumondangou.
Nous avons remarqué que ACF fait un grand effort, bien qu'il soit installé, ça fait un mois et demi pratiquement. Toutes les activités qui devaient se faire avant le rapatriement ont déjà pratiquement sont en cours. Ils peuvent commencer dans quelques jours à recevoir les réfugiés. Du côté des réfugiés, nous sommes rendus compte qu'il y a des réfugiés qui sont prêts à revenir, alors que d'autres, très divers, surtout ceux qui sont bien implantés à Ifondo, qui est un grand centre, qui ont des activités économiques et voient mal comment quitter ces activités et retourner. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle sur les environ les 37 000 réfugiés qu'il y a, les intentions de retour ne sont qu'à 9 000 et quelques.
Manque de morgue à Kindu, le médecin directeur de l'hôpital général de cette ville tire la sonnette d'alarme. Les corps passent parfois de longues journées étalés dans une véranda dans l'enceinte de l'hôpital. Selon le médecin directeur, cet état de choses constitue un danger et pour les membres des familles et pour le corps médical. Faustin Lédi, médecin directeur de l'hôpital général de Kindu, s'exprime au micro de Gabriel Wamenya.
Ce sont des malades qu'on amène et qu'une fois qu'il y a un décès, et ce décès-là doit être ramené au village. Un village qui est situé à 30 ou 40 km. Et ces jours-là, on ne doit pas traverser ou bien on ne doit pas ramener les décès immédiatement au village. On sera obligé de garder les décès dans cet hangar que vous voyez là-bas, que les autres disent une morgue qui n'existe pratiquement pas. Alors ça, ça a une répercussion sur même la santé de la population et sur les conditions d'hygiène. Donc, il faut normalement que nous ayons une morgue. L'exemple le plus actuel que nous avons eu à constater, c'est quoi? Il y a un décès que nous avons enregistré d'un enfant d'au moins 10 ans. Il était amené par sa grande sœur et ce défunt-là n'avait même pas de membres de famille ici. Il fallait qu'on ramène le corps à 15 km. Mais on a dû passer 24 heures avec ce corps à l'hôpital et dans cet hangar, les autres appellent morgue alors qu'il n'en est pas question.
Deux titres en page internationale. La Zambie a temporairement fermé son principal poste frontière avec la Tanzanie après une nuit d'émeutes qui ont fait plusieurs blessés. Nous avons temporairement fermé la frontière pour permettre au calme de revenir, a déclaré Edwin Sininza, responsable de district dans le nord de la Zambie. Selon M. Sininza, les émeutes ont débuté jeudi dans la soirée après la propagation d'informations selon lesquelles un Tanzanien serait décédé en garde à vue dans la ville zambienne de Nakonde. Une quinzaine de véhicules ont été incendiés et des Zambiens qui se trouvaient du côté tanzanien ont été blessés avant que les forces de police des deux pays ne rétablissent le calme. Quatre d'entre eux ont été hospitalisés. Au moins 30 000 foyers ont été touchés depuis début août par des inondations qui ont frappé une grande partie du Soudan, faisant un nombre indéterminé de victimes, ont estimé ce vendredi les Nations Unies. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA, des milliers de bâtiments, de maisons, d'écoles, des routes, de ponts et de terres agricoles ont été soit emportés, soit gravement endommagés. OCHA indique par ailleurs que le nombre des morts est difficile à déterminer. Le nord, l'est et le centre du pays sont les plus touchés, particulièrement l'état de Sennar au sud de Khartoum, qui a besoin de 2500 tentes, de 10 000 moustiquaires et d'équipements sanitaires pour venir en aide aux sans-abri. Les Nations Unies redoutent particulièrement des épidémies de diarrhée et de choléra provoquées par la présence d'eau stagnante. Le rappel de titre avant de boucler complètement ce journal. L'Union européenne a déjà tout prévu pour le financement du deuxième tour des présidentielles en RDC. Déclaration hier de l'envoyé spécial de l'Union européenne en RDC, Aldo Aiello. Des démobilisés pas du tout acceptés dans leur milieu de réinsertion. Cela se passe à Mitwaba, à plus de 466 km au nord de Lubumbashi. Les habitants leur reprochent d'être responsables des dégâts observés dans leur localité. Un réseau de lutte contre les violences sexuelles dans la sous-région des Grands Lacs vient de voir le jour. Ce réseau est constitué des femmes de la RDC, du Rwanda, du Kenya et du Burundi. Point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Okapi. Okapi.